l'étude du livre des rois, qu'Armand avait prolongé la semaine dernière par le règne de Manassé. Nous en arrivons désormais au règne du roi Josias, dans les chapitres 22 et 23 de ce livre. Alors je vous rappelle juste où nous en sommes, dans le découpage global de ce livre. Nous sommes dans la dernière partie qui couvre les chapitres 18 à 25. Le royaume d'Israël a disparu. Il n'y a plus que le royaume de Juda sur lequel 8 rois vont régner successivement. Et ces 8 rois se répartissent comme ceci. Et il me semble que le règne fidèle de Josias, avec le renouvellement de l'alliance qu'il a connu, se trouve au centre de cette partie des chapitres 18 à 25. Et donc encadre des règnes infidèles avant et après, mais nous aurons l'occasion d'y revenir. Comme la section n'est pas très longue, je vous propose de lire l'intégralité des chapitres 22 et presque tout le chapitre 23, puisque la fin concerne un autre roi, et je lirai dans la version second 21. De roi 22, Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi et il régna 31 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jedida et c'était la fille d'Adaja de Botsac. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et marcha entièrement sur la voie de son ancêtre David. Il ne s'en écarta ni à droite ni à gauche. La 18e année de son règne, le roi Josias envoya dans la maison de l'Éternel Shaphan, le secrétaire, le fils d'Atsalia et petit-fils de Meshulam. Il lui dit « Monte vers le grand prêtre Ilkija, qu'il ramasse l'argent qui a été apporté dans la maison de l'Éternel et que les gardiens de l'entrée ont récolté auprès du peuple. » On confiera cet argent aux responsables chargés des travaux dans la maison de l'Éternel. Ils l'emploieront pour ceux qui travaillent aux réparations de la maison de l'Éternel, pour les charpentiers, les manœuvres, les maçons, pour l'achat de bois, de pierres de taille nécessaires aux réparations du temple. Mais on ne leur demandera pas de compte pour l'argent remis entre leurs mains, car ils agissent avec honnêteté. C'est alors que le grand prêtre Ilkija dit à Shaphan, le secrétaire, « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. » Ilkija donna le livre à Shaphan, et Shaphan le lut. Puis Shaphan, le secrétaire, alla faire son rapport au roi. Il dit, « Tes serviteurs ont ramassé l'argent qui se trouvait dans le temple, et l'ont confié aux responsables chargés des travaux dans la maison de l'Éternel. » Puis Shaphan, le secrétaire, annonça au roi, « Le prêtre Ilkija m'a donné un livre. » Et Shaphan le lut devant le roi. À l'écoute des paroles du livre de la loi, le roi déchira ses habits. Ensuite, il donna cet ordre au prêtre Ilkija, à Kisham, fils de Shaphan, à Akbor, fils de Miché, à Shaphan le secrétaire, et à son propre serviteur Azaja, « Allez consulter l'Éternel pour moi, pour le peuple et pour tout Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. En effet, elle doit être grande, la colère de l'Éternel qui s'est enflammée contre nous, parce que nos ancêtres n'ont pas obéi aux paroles de ce livre et ne se sont pas conformés à tout ce qui nous y est prescrit. » Le prêtre Ilkija, à Shikam, Akbor, Shaphan et Azaja allèrent trouver la prophétesse Hulda. Elle était l'épouse de Shalom, le gardien des habits, le fils de Tikva et le petit-fils de Arhas, et elle habitait Jérusalem dans la ville neuve. Une fois qu'ils lui eurent parlé, elle leur annonça « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Annoncez à l'homme qui vous a envoyé vers moi. Voici ce que dit l'Éternel. Je vais faire venir des malheurs sur cet endroit et sur ses habitants. » Conformément à toutes les paroles du livre qu'a lu le roi de Juda. Puisqu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont offert des parfums à d'autres dieux afin de mériter par toute leur manière d'agir, ma colère s'est enflammée contre cet endroit et elle ne s'éteindra pas. Mais vous annoncerez au roi de Juda qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues. Ton cœur a été touché, tu t'es humilié devant l'Éternel en entendant ce que j'ai déclaré contre cet endroit et contre ses habitants. À savoir qu'ils seront un objet d'étonnement et de malédiction. Tu as déchiré tes habits, tu as pleuré devant moi. Eh bien, moi aussi j'ai entendu cela, dit l'Éternel. C'est pourquoi je te ferai rejoindre tes ancêtres. Tu rejoindras la tombe dans la paix, et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur cet endroit. Ils rapportèrent cette réponse au roi. Le roi Josias fit rassembler vers lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem, puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem, les prêtres, les prophètes et tout le peuple, du plus petit jusqu'au plus grand. Et il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Le roi se tenait sur l'estrade, et il conclut une alliance devant l'Éternel. Il s'engagea à suivre l'Éternel et à respecter ses commandements, ses instructions et ses prescriptions de tout son cœur et de toute son âme, en mettant en pratique les paroles de cette alliance écrite dans ce livre. Et tout le peuple s'engagea dans cette alliance. Le roi ordonna au grand prêtre Hilkija et aux prêtres adjoints et aux gardiens de l'entrée de sortir du temple de l'Éternel tous les ustensiles qui avaient été fabriqués pour Baal, pour Astarté et pour tous les corps célestes. Il les brûla à l'extérieur de Jérusalem, dans les champs de la vallée du Cédron, et en fit porter la poussière à Bethel. Il fit disparaître les prêtres d'autres dieux que les rois de Juda avaient établis pour brûler des parfums sur les hauts lieux dans les villes de Juda et aux environs de Jérusalem, ainsi que ceux qui offraient des parfums à Baal, au soleil, à la lune, aux constellations et à tous les corps célestes. Il sortit le poteau sacré de la maison de l'Éternel, il le transporta à l'extérieur de Jérusalem vers le torrent du Cédron, et là il le brûla. Il le réduisit en cendres qu'il jeta sur les tombes des gens du pays. Il démolit les logements des prostituées qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel et où les femmes tissaient des toiles pour Astarté. Il fit venir tous les prêtres des villes de Juda et il rendit impurs les hauts lieux où les prêtres brûlaient des parfums depuis Geba jusqu'à Beersheba, et il démolit les hauts lieux des portes, celui qui était à l'entrée de la porte de Josué, le chef de la ville, et celui qui était à gauche de la porte de la ville. Toutefois, les prêtres des hauts lieux ne pouvaient pas monter à l'autel de l'Éternel à Jérusalem, mais ils mangeaient des pains sans levain au milieu de leurs frères. Le roi rendit aux fêtes dans la vallée des fils de Hinnom impurs, afin que personne ne fasse plus passer son fils ou son fille par le feu en l'honneur de Moloch. Il fit disparaître de l'entrée de la maison de l'Éternel les chevaux que les rois de Juda avaient consacrés au soleil près de la chambre de l'eunuque Nétan-Mélec, qui se trouvait dans les annexes, et il brûla au feu les chars du soleil. Le roi démolit les autels qui étaient sur la terrasse de la chambre à l'étage d'Akaz, autels que les rois de Juda avaient fabriqués, ainsi que ceux qu'avait fait Manassé dans les deux parvis de la maison de l'Éternel. Après les avoir brisés et enlevés de là, il jeta leur poussière dans le torrent du Cédron. Le roi rendit impurs les hauts lieux qui se trouvaient en face de Jérusalem, à droite du mont de la destruction, et que Salomon, le roi d'Israël, avait construit, en l'honneur d'Astarté, l'abominable déesse des Sidoniens, et de Kémosh, l'abominable dieu de Moab, et de Milcom, l'abominable dieu des Ammonites. Il brisa les statues, abattit les poteaux sacrés et remplit d'ossements humains la place qu'ils occupaient. Il démolit aussi l'autel qui se trouvait à Bethel, ainsi que le haut lieu qu'avait fait Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il brûla le haut lieu, il le réduisit en cendres, et il brûla le poteau sacré. Josias se tourna et vit les tombes qui étaient là dans la montagne. Il envoya prendre les ossements des tombes et les brûla sur l'autel et le rendit ainsi impur, conformément à la parole de l'Éternel proclamée par l'homme de Dieu qui avait annoncé ces choses. Puis il demanda « Quel est ce monument que je vois ?» Les habitants de la ville lui répondirent « C'est le tombeau de l'homme de Dieu qui est venu de Juda et qui a crié contre l'autel de Bethel les choses que tu viens d'accomplir. » Il déclara alors « Laissez-le, que personne ne remue ses ossements. » On conserva ainsi ses ossements avec ceux du prophète venu de Samarie. Josias fit encore disparaître tous les centres de hauts lieux qui se trouvaient dans les villes de Samarie et que les rois d'Israël avaient établis pour irriter l'Éternel. Il fit pour eux tout ce qu'il avait fait à Bethel. Il sacrifia sur les autels tous les prêtres des hauts lieux qui étaient là et il y brûla des ossements humains, puis il retourna à Jérusalem. Ensuite, le roi donna cet ordre à tout le peuple. « Célébrez la Pâque en l'honneur de l'Éternel, votre Dieu, conformément à ce qui est écrit dans le livre de l'Alliance. Aucune Pâque pareille à celle-ci n'avait été célébrée depuis l'époque où les juges dirigeaient Israël, ni pendant toute l'époque des rois d'Israël et de Juda. Ce fut la 18e année du règne de Josias qu'on célébra cette Pâque en l'honneur de l'Éternel à Jérusalem. De plus, Josias fit disparaître ceux qui invoquaient les esprits et les spirites, ainsi que les théraphimes, les idoles et toutes les horreurs qu'on voyait dans le pays de Juda et à Jérusalem. Il fit cela afin de mettre en pratique les paroles de la loi écrites dans le livre que le prêtre Hilkija avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Avant Josias, il n'y eut aucun roi qui, comme lui, revienne à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, en se conformant à toute la loi de Moïse. Et après lui, il n'en a pas paru de semblable. Toutefois, l'Éternel ne renonça pas à l'ardeur de sa colère. Elle était grandement enflammée contre Juda à cause de tout ce que Manassé avait fait pour l'irriter. Ainsi l'Éternel dit « Juda aussi, je vais l'éloigner de moi tout comme j'ai écarté Israël et je rejetterai cette ville de Jérusalem que j'avais choisie, ainsi que la maison dont j'avais dit « C'est là que résidera mon nom ». Le reste des actes de Josias, tout ce qu'il a compris, cela est décrit dans les annales des rois de Juda. À son époque, le pharaon Nécho, le roi d'Égypte, monta rejoindre le roi d'Assyrie vers l'Euphrate. Le roi Josias marcha à sa rencontre et le pharaon le tua à Megiddo dès qu'il le vit. Ses serviteurs l'emportèrent mort sur un char. Ils l'amenèrent de Megiddo à Jérusalem et l'enterrèrent dans son tombeau. Le peuple du pays prit Joacaz, le fils de Josias, pour le consacrer par onction et le faire roi à la place de son père. Jusqu'ici la parole. Section un petit peu longue, mais qui est intéressant, je trouve, de lire comme ça d'une seule traite pour donner une idée de ce qui s'est passé pendant ce règne de Josias et surtout pendant cette 18e année sur laquelle se concentre une grande partie du texte. Alors, comme vous le voyez, je n'ai pas pu quand même m'empêcher de faire un petit chiasme, et effectivement ça marche, puisque vous voyez qu'à la notice initiale de Josias correspond sa notice finale, à la réparation du temple et à la redécouverte du livre de la loi correspond la mise en pratique de la loi. Vous avez ici les versets ou les expressions qui permettent de justifier ça, et au renouvellement de l'Alliance correspond la célébration de la Pâque conformément à l'Alliance, et la partie centrale, c'est cette longue section qui décrit les destructions des idoles du temple de Jérusalem et du pays que Josias opère au milieu de son règne. Même si je pense que Armand, la semaine dernière, en avait déjà dit quelque chose, peut-être vaut-il la peine de replacer un peu le règne de Josias dans l'histoire. Il succède au très long règne de Manassé de 55 ans et à celui beaucoup plus court de 2 ans de son père. Et il se situe à une période charnière de l'histoire de l'Orient antique, puisque c'est la fin de la splendeur assyrienne. Le plus grand roi assyrien, celui sous lequel l'étendue géographique de sa domination a été la plus grande, c'est Assurbanipal, qu'on appelle aussi Sardanapal. C'est peut-être quelque chose, il est devenu proverbial du fait de sa splendeur et aussi de sa débauche. Et ce qui est très frappant, c'est que Assurbanipal est sans doute mort vers à peu près vers l'an 600, c'est difficile à chiffrer, mais 630. Et les derniers rois d'Assyrie n'ont pas su du tout prolonger sa splendeur, et en quelques décennies, même quelques années, l'Assyrie a été rayée de la carte, puisque Ninive est tombée en moins 612 et que finalement l'Assyrie disparaît en moins 609 et surtout après remplacée par la Babylonie, avec deux grands rois, Nabopolassar qui règne donc pendant que Josias est sur le trône, auquel succède Nebuchadnezzar, qui sera le grand roi dont il est tellement question dans le livre de Daniel, et qui est celui par lequel Jérusalem va tomber. Donc, une charnière dans l'histoire du monde. Et le troisième empire que je n'ai pas représenté ici, c'est l'Égypte. L'Égypte qui va s'associer à la Syrie parce qu'elle a peur de la Babylonie, qui est la puissance montante. Et c'est ce qui explique que quand Josias meurt à Megiddo, finalement, lui, son ennemi historique, c'était l'Assyrien, et voyant que l'Égypte allait soutenir la Syrie, il va à l'encontre du pharaon pour essayer de l'empêcher de rejoindre la Syrie et de prêter main forte à la Syrie contre Babylone. On se rappelle que son arrière-grand-père, Ézéchias, avait été plutôt sympathique avec Mérodac Baladan, le roi de Babylone, quelques 90 ans auparavant. Donc on voit, il y a tout ce jeu d'alliance qui existe. En parallèle donc du règne de Josias, il y a des prophètes qui se lèvent en Juda, le prophète Nahum, le prophète Sophonie, le prophète Habacuc et surtout le prophète Jérémie qui est presque contemporain de Josias, hein, puisque Josias monte sur le trône en 640 et on estime donc il avait 8 ans, donc il est né en 648 et on estime que Jérémie est né à peu près vers 645. Donc on voit que c'est deux grands personnages de la Bible, hein, le roi Josias d'un côté et puis le prophète Jérémie sont à peu près concomitants. Alors c'est ainsi que j'avais intitulé mon exposé, la vie de Josias selon le livre des rois, bien c'est une éclaircie dans un ciel bien sombre et finalement la réforme ne va rien produire. Alors, avant de rentrer dans les raisons pour lesquelles finalement ce règne du roi Josias est un échec, eh bien, il y a quand même des éléments très positifs. Et le premier, c'est cette redécouverte du livre de la loi. Alors, cette redécouverte du livre de la loi, si on voit un petit peu tout ce qui se passe dans le livre des rois, etc., les chroniques, la loi n'avait pas complètement disparu depuis le moment où Moïse avait écrit le Deutéronome. Ce livre de la loi est vraisemblablement le livre du Deutéronome parce qu'il y a beaucoup d'allusions dans le texte à des les mots du livre du Deutéronome. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais le rédacteur des rois a bien pris soin de faire des parallèles et d'utiliser les mots précis qu'utilise le Deutéronome. Donc tout laisse à penser qu'il s'agit bien de ce livre du Deutéronome. Mais sans doute, pendant le règne impie de Manassé, ce livre-là avait été mis de côté, on l'avait rejeté. Puis il faut bien se rappeler qu'à l'époque, c'était avant Gutenberg, et donc il n'y avait pas 36 000 exemplaires du livre de la loi. Il y en avait sans doute un particulièrement précieux qui était mis au temple, peut-être quelques autres, puisque le roi était censé en faire une copie pour lui-même. Mais bref, il ne devait pas y en avoir quand même 36 000. Et donc, à la 18e année du règne de Josias, alors qu'il y a des travaux qui sont dans le temple de l'Éternel, eh bien, le livre de la loi est redécouvert. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que quand on compare le récit qui nous est fait du règne de Josias entre le livre des rois et le livre des chroniques, on s'aperçoit que finalement, le livre des rois bouscule la chronologie, puisque c'est avant la découverte du livre de la loi que déjà Josias avait entamé une réforme et qu'il avait entamé aussi des travaux dans la maison de l'Éternel. C'est pour ça d'ailleurs qu'on retrouve le livre de la loi. Donc, ce n'est pas le livre de la loi qui motive les travaux, c'est à l'occasion des travaux, on découvre le livre de la loi. Mais le rédacteur du livre des rois, peut-être Jérémie, a bien soin de mettre cela au début de la geste de Josias qu'il rapporte, pour bien montrer que c'est finalement à partir de cela que normalement le réveil se fait. Le réveil provient du retour à la parole de Dieu. Et ça, c'est quelque chose que on a observé tout au cours de l'histoire, y compris autour de l'histoire de l'Église. Les réveils qui ont eu lieu ont tous, et je crois qu'il n'y a pas une seule exception, était motivé par un retour à la parole de Dieu ou à une portion de la parole de Dieu qui avait été oubliée. Et donc là, nous voyons Josias qui écoute, alors il y a toute cette cour hein, autour de Josias avec Chafan, avec Kija, etc., tous ces proches du roi, dont d'ailleurs les descendants vont continuer à être proches des rois suivants. On retrouve leurs descendants qui sont autour de Jéhoiakim dans le livre du prophète Jérémie. Donc il y a tous ces gens-là et qui viennent voir le roi et qui écoutent la lecture de la loi et qui réagit tout de suite. Alors ça aussi, c'est très intéressant de voir que la loi lue, la parole de Dieu qui a été lue, eh bien, a son effet immédiat sur le roi Josias. Il n'est pas là à dire « Oh, ben de toute façon, ça c'était la faute de mon père et de mon grand-père. » C'est ce qui était au demeurant vrai. Mais il prend cette lecture de la loi pour lui-même. La colère de l'Éternel s'est enflammée contre nous. Voilà. Et parce qu'on ne s'est pas conformé à la parole qui a été écrite. Et donc, ça me faisait penser à ce texte que nous trouvons en Hébreux 4, versets 12 et 13. Hein. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Aucune créature n'est cachée devant lui. Tout est découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Premier point, donc, l'écoute de la parole de Dieu doit produire son effet. Deuxième point, la prophétie féminine n'est pas une prophétie de second rang. Parce que nos chers amis, là, Ilkija, Achikam, Chafan et consorts, qui vont-ils voir? Sophonie? Non. Nahum? Non. Jérémie? Non. Et pourtant, ils connaissaient Jérémie, puisque le mari de Hulda, elle était l'épouse de Shalom, et Shalom, c'est l'oncle de Jérémie. Donc, tout ça, c'est des histoires de famille, hein, tout ça. Donc, mais qui vont-ils voir? Ils vont voir Hulda. Alors, c'est quand même très intéressant, parce que parfois on dit, ah ben oui, mais on va laisser un rôle aux femmes, parce que c'est un temps de petites choses, c'est le déclin, etc. Donc, les hommes ne sont pas là, donc par défaut, on va faire appel aux femmes. Ben, je suis désolé, c'est pas du tout ce qui se passe à ce moment-là, puisqu'il y avait quand même un certain nombre de prophètes assez, je dirais, titrés, puisqu'on a conservé leurs écrits dans la parole inspirée. Et donc, je rappelle ce que Pierre cite le jour de la Pentecôte, vos fils et vos filles prophétiseront, et ce que nous dit 1 Corinthiens 14, verset 31, sans restriction sur ce verset-là, vous pouvez tous prophétiser. Je vous en laisse tirer les conséquences. Troisième point, l'engagement d'une seule personne est entraînant. Une fois l'écoute de la parole de Dieu, une fois l'interprétation de la parole de Dieu donnée par Hulda, que va faire Josias? Nous pouvons nous poser la question, parce que ce qu'annonce Hulda, c'est quand même pas très sympa. C'est pas « Ah, ben je suis très content que tu te sois humilié. » Oui, elle reconnaît effectivement qu'il s'est humilié, qu'il a pleuré, etc. Mais elle lui dit pas « Ben écoute, mon petit garçon, tu vas retrousser tes manches, tu vas faire une réforme et puis tout va bien aller. » Elle dit « Non, 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 ça va mal se finir. » Alors qu'est-ce que vous auriez fait à la place de Josias en disant bon, « Quoi, ça sert qu'on se décarcasse, quoi ?» Parce que finalement... Si déjà l'avenir est tracé et que de toute façon ça va finir en catastrophe, eh bien non, eh bien non. Et ça, je trouve que c'est une marque particulièrement importante du caractère de Josias. Ce n'est pas parce qu'il sait que ça va mal finir qu'il ne fait rien du tout. Au contraire, c'est une motivation pour lui. Il s'engagea à suivre l'Éternel et à respecter ses commandements, ses instructions et ses prescriptions de tout son cœur, de toute son âme, en mettant en pratique les paroles de cette alliance écrite dans ce livre. Et tout le peuple s'engagea dans cette alliance. Donc on voit que Josias ne prend pas prétexte du fait que ça va mal finir et que de toute façon ça a été annoncé par Dieu et que son action, si volontariste elle puisse être, n'aura pas d'effet durable, pour ne pas agir lui-même. Et au contraire, il agit et ça a un effet d'entraînement. Voilà. Puisque tout le peuple s'engagea dans cette alliance. Après, nous verrons ce que signifie cet engagement. Et ça me faisait penser à ce texte que Paul enjoint à Timothée, « Sois un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi, ta pureté. » Et là, je trouve que c'est encourageant qu'on puisse être des modèles les uns pour les autres. Il y a beaucoup de camps qui se préparent, les moniteurs, les monitrices sont des modèles et peuvent finalement avoir cette influence engageante pour ceux et celles qu'ils ont sous leur responsabilité. Longue est la section, et c'est mon quatrième point, le péché demande des mesures radicales, longue est la section que nous avons lue des versets 3 à 20 où, qui décrivent par le menu, semble-t-il, tout ce que Josias a fait. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant de voir la liste. C'était quand même très ancré, très répandu, très profond, tout ce qu'il y avait comme problème, hein. En particulier ces adorations de faux dieux. Et on remarque qu'à 6 reprises, il est dit « il brûla », et puis à 4 reprises, « il souilla ». Parce que donc, pour éviter que le haut lieu puisse être rebâti dès qu'il avait le dos tourné, eh bien en fait, non seulement il détruisait l'autel consacré à l'idole, mais il y mettait des ossements, de façon à rendre cet endroit-là impur, non seulement instantanément, mais aussi pour la suite. Parce qu'une fois qu'il avait été souillé par des ossements, il n'était plus apte à être un sanctuaire qui pouvait être reconnu. Mais ce qui est très frappant, et là aussi je pense que ce n'est pas un hasard, c'est que le verbe « brûler » revient à 6 reprises, pas 7. On aurait dit un vieux frère. Parce que si radical et si étendue que soit l'action de Josias, eh bien, la suite va montrer qu'elle n'a pas permis d'arriver à la perfection, au but. Et ça, malheureusement, c'est le cas. Mais ce qui me frappe aussi, c'est l'action radicale de Josias, hein. Il fit cela, il fit cela, il fit cela, etc. Et alors, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui ? Ben, ça veut dire que finalement, quand il y a du péché, en particulier de l'idolâtrie, hein, toute chose ou personne ou situation ou, qui prend la place de Dieu dans nos cœurs, eh bien, nous avons des mesures radicales à prendre. Josias en a pris et Jésus est un peu sur le même registre quand il dit dans l'évangile selon Matthieu, « Si ta main ou ton pied te pousse à mal agir, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir deux pieds ou deux mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil te pousse à mal agir, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie avec un seul œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans l'enfer de feu. » Alors, naturellement, ce n'est pas à comprendre au sens littéral. On sait que là, il y a des pères de l'Église qui se sont castrés parce qu'ils avaient des pulsions sexuelles et qui prenaient cela au pied de la lettre. Mais la radicalité quand même des propos de Jésus montre que face à des situations où on peut être tenté de pécher et de retomber dans le péché, c'est pour ça les ossements qui souillent les endroits, eh bien il faut prendre des mesures radicales. Et c'est ce que nous enjoint Jésus et l'exemple que nous donne Josias ces mesures radicales à prendre d'une mesure, d'une façon ou d'une autre. Cinquième point, la fête est liée à la sanctification. Dans l'ordre qui nous est présenté dans le texte, ce n'est qu'après avoir purifié le temple, Jérusalem, et puis, vous voyez, il monte jusqu'au nord, hein, parce que sans doute l'affaiblissement du royaume assyrien avait permis au royaume de Juda de pouvoir s'étendre dans ce qui était autrefois le royaume d'Israël, puisqu'on voit que Josias a une action qui remonte. Hein, Megiddo, c'est assez au nord par rapport à Jérusalem. C'était vraiment au centre, dans le royaume d'Israël, qui avait disparu. Et donc, que va faire une fois Josias, une fois qu'il a purifié le pays, puis il retourna à Jérusalem, et ensuite, il donne cet ordre à tout le peuple, célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, votre Dieu, conformément à ce qui est écrit dans le livre de l'Alliance. Vous voyez, c'est intéressant dans ce point 5 de voir que la sanctification est pour... Josias, un préalable à l'institution de la Pâque. Pâque dont le détail est donné de façon beaucoup plus importante dans le livre des Chroniques, mais qui est évoqué ici en quelques versets. Et alors, ça me faisait penser aussi à ce texte que nous connaissons de 1 Corinthiens 5, versets 7 et 8, qui rapproche la Pâque de Christ, hein, puisque c'est le texte du Nouveau Testament qui fait le lien direct. En effet, Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié, mais dans un contexte, si on regarde le chapitre 5 de 1 Corinthiens, ce petit verset-là arrive pour relier Jésus et la Pâque, et l'agneau pascal, mais ça arrive dans un contexte de purification de l'Église, que Paul demande aux Corinthiens d'entreprendre. Purifiez-vous du vieux levain afin d'être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, le levain du mal et de la méchanceté, mais avec des pains sans levain, de pureté et de vérité. Et puis, sixième point, la parole de Dieu s'applique dans les détails. Josias fit disparaître ceux qui invoquaient les esprits, les spirites, c'est la dernière partie hein, que vous voyez, afin de mettre en pratique les paroles de la loi écrites dans le livre que le prêtre Hilkija avait trouvé dans la maison de l'Éternel. La première partie de la purification dans les versets 3 à 20 du chapitre 23 semble être plus dirigée vers les sanctuaires, tandis que là, c'est quoi les théraphimes ? Les théraphimes, c'était les dieux domestiques. Donc, c'est-à-dire que non seulement le culte avait besoin d'être purifié, mais aussi dans les détails de la vie quotidienne. Il fallait aussi éradiquer cela. Et la parole de Dieu, hein, les paroles de cette loi, s'appliquent aussi dans le détail de notre vie domestique. Elles ne s'appliquent pas simplement dans les considérations liées à notre culte. Et cela me fait penser à ce texte de Jacques 1, verset 22, « Mettez en pratique la parole, ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Donc il fallait mettre de côté toutes ces petites statuettes hein, dont on a trouvé des traces, qui étaient un peu cachées dans les maisons, à droite et à gauche. Et donc chacun de nous, peut-être c'est l'occasion de réfléchir, quels sont mes théraphimes, quelles sont mes idoles, quelles sont mes horreurs. Voilà. Alors tout ça c'est bel et bien, quelle action magnifique que celle de Josias au travers de ces six points, et pourtant, il y a ce triste « toutefois, l'Éternel ne renonça pas à l'ardeur de sa colère ». Pourtant il n'y avait jamais eu un roi comme celui-là. Alors qu'est-ce qui s'était passé? Plutôt qu'est-ce qui ne s'était pas passé pour que l'Éternel ne renonce pas à l'ardeur de sa colère. Alors, naturellement, il y avait l'historique de Manassé, mais nous savons qu'il y a un principe très important dans la parole de Dieu, c'est que Dieu ne juge pas les fils pour les péchés des pères. C'est tout le raisonnement qu'on voit dans le livre du prophète Ézéchiel. Les déportés du temps d'Ézéchiel disaient « Mon père en mangeait des raisins verts, les dents des fils s'en sont agacées. » Et puis Dieu dit « J'en ai marre de ce proverbe, je ne veux plus l'entendre. » Donc, c'est pas... ça. Alors c'est vrai que de notre côté, les fautes des pères ont des conséquences sur leurs enfants, mais chacun est quand même responsable et de sa propre conduite. Et on voit que Dieu avait renoncé parfois à des jugements sur les fils parce qu'il s'était repenti des péchés des pères. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que en fait, l'action de Josias, elle a été courageuse mais peu efficace. Et de la même manière que je vous avais mis ce graphique pour Esther, je vous le remets pour Josias, on a Jérémie, et Jérémie c'est « The Dark Side of the Moon ». Par rapport à 2 Rois 22-23, ça a l'air vraiment pas mal, mais quand on en vient au livre du prophète Jérémie, c'est pas ça. Et vous remarquerez, je vous laisse chercher les citations, c'est que il est dit dans le prophète Jérémie, « Et la parole de l'Éternel vint à Jérémie au jour du roi Josias. » C'est bien précisé pour dire, attention, là on va voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Alors c'est sûr qu'il y a un retour, mais c'est pas vraiment à Dieu. Chapitre 4, c'est bouleversant ce texte. C'est un des textes de Jérémie qui me touche le plus. Israël, si tu reviens, mais reviens vers moi, déclare l'Éternel, si tu cesses de faire ce qui est horrible devant moi. Vous rappelez, horrible, vous avez vu ? Si tu ne vagabondes plus de ci et de là, si tu prêtes serment en disant l'Éternel est vivant avec vérité, droiture et justice, alors les nations se béniront les unes les autres grâce à lui, grâce à Israël, elles tireront leur fierté de lui. Voilà. Et voyez, c'est ça le drame, c'est que Dieu, dans le Deutéronome, avait institué Israël pour être un modèle pour tous les peuples, pour que la bénédiction d'Abraham, au travers d'Israël et de son respect de la loi, puisse s'étendre au monde entier. Et le fait qu'Israël se conduise mal n'était pas simplement un problème pour Israël seulement, c'est un problème pour toutes les nations. D'où ici ce que Jérémie nous dit. Alors les nations se béniront les unes les autres grâce à lui. Et donc, si Israël, si Juda, en l'occurrence Israël ou Juda, hein, Jérémie utilise Israël dans le sens de l'ensemble du peuple ici, je pense. Donc, si Israël revient à Dieu, il faut que ce soit un retour vers Dieu, vers Dieu lui-même, que ce ne soit pas justement un retour de façade. Et ce que Jérémie est obligé de dire dans le chapitre d'après, ils ont refusé de revenir. Donc, c'était bien un retour sous Josias, mais un retour de façade, ce n'était pas un retour vers Dieu. Pourquoi ? Parce que vous aurez remarqué que la maison de l'Éternel, elle était toujours là. Il y avait toujours des habitudes. Finalement, on est revenu aux habitudes d'Ézéchias. Bon, et on avait pris de mauvaises habitudes peut-être sous Manassé et Amon, mais il y avait les habitudes d'Ézéchias. Puis on revient à les habitudes. Mais on ne revient pas à Dieu lui-même. Deuxième point, c'est la loi. La loi, elle a été retrouvée, certes, mais elle n'a pas été vraiment obéie. Et toujours dans le prophète Jérémie, toujours dans cette même section, et écrite sous le roi Josias, Jérémie dit « Comment pouvez-vous prétendre ? Nous sommes sages puisque la loi de l'Éternel est avec nous. » Ah ben c'est sûr, on a retrouvé le bouquin. C'est parfait. Mais c'est vraiment en vue du mensonge que la plume mensongère des scribes de ces mises à l'œuvre. Les sages sont couverts de honte, ils sont terrorisés pieds au piège, maintenant qu'ils ont méprisé la parole de l'Éternel, où est leur sagesse ? Donc ils étaient contents parce qu'ils avaient le livre, voilà, dans la bibliothèque, tout va bien, on a ce qu'il faut. Mais finalement, la parole de l'Éternel est méprisée. Donc, ce n'est pas parce que la loi de l'Éternel est avec nous qu'elle est dans le cœur. Pas du tout. Troisième point, pire encore, un temple nettoyé mais objet d'orgueil. À partir du chapitre 7 de son livre, Jérémie fait ce qu'on appelle le sermon sur le temple. Et c'est un passage qui s'étend de chapitre 7 à 10, déjà ce chapitre 7 jusqu'au chapitre 8, verset 3, qui est absolument magnifique, et qui commence par ces paroles. « Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Corrigez votre conduite et votre manière d'agir, et je vous laisserai habiter ici. Ne vous fiez pas aux paroles trompeuses qui prétendent « C'est ici le temple de l'Éternel, c'est ici le temple de l'Éternel, c'est ici le temple de l'Éternel. » Si vraiment vous corrigez votre conduite et votre manière d'agir, si vraiment vous faites justice les uns aux autres, si vous n'exploitez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne versez pas le sang innocent dans cet endroit, si vous ne tournez pas vers d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai habiter ici, dans ce pays que j'ai donné à vos ancêtres depuis toujours et pour toujours. » Et on sait bien qu'ils ont continué à se glorifier. Et dans la suite du prophète Jérémie, quand il écrit du temps du descendant du roi Josias, on voit que ils sont très contents en se disant « De toute façon, il y a le temple de l'Éternel, donc on craint rien, c'est notre talisman. » Et pareil aussi Ézéchiel, quand il évoque ceux qui sont restés au pays, « Nous, on est tranquille, on est la marmite, on est sécurisé. » Ézéchiel chapitre 11, je ne vais pas développer tous ces points-là. Donc tout ça pour dire que on peut avoir un extérieur religieux finalement pas mal du tout, hein, sans doute plusieurs de ceux qui étaient allés dans le temple donner un coup de main aux maçons, etc., pour remettre d'équerre ce temple. Ah ben, on a retrouvé le temple de Salomon, c'est pas mal, hein, et puis il est beau. Hein, mais finalement, ça sert à rien. Si notre religion devient notre orgueil, eh bien c'est quelque chose d'abominable aux yeux de Dieu. Et vous remarquerez aussi l'alliance dans ce texte-là, entre les enjeux éthiques et les enjeux religieux. Là aussi, c'est toujours indissociable. Et un des messages principaux de tous les prophètes, et pas simplement Amos ou Jérémie, c'est de dire, si éthiquement ça ne va pas, eh bien religieusement ça ne va pas non plus, et réciproquement. Les deux vont indubitablement ensemble. Et alors,
Ce qui est très triste de constater, c'est que Josias a eu trois fils qui sont montés sur le trône. Pas tout à fait dans l'ordre, hein, puisqu'il y a eu Joacaz qui a régné 3 mois, Joachim pendant 9 ans. Alors lui, il était méchant avec Jérémie, hein, on se le rappelle. Et puis Joachim, lui, c'est 3 mois, puis il a été envoyé à Babylone. Et Sédécias pendant 11 ans, et c'est lui qui a connu la chute définitive de Jérusalem. Donc il a eu 3 fils et 1 petit-fils qui sont montés sur le trône, dans une période finalement relativement courte, puisqu'ils se sont succédés ces 4 rois en 23 ans, et avec 3 déportations en 19 ans, hein, -605, -597 et -586. Donc ses successeurs ont vite occulté la réforme. Nous n'allons pas dans le développement que nous faisons du livre des rois dédié une section particulière au chapitre 24 et 25, mais juste à ce propos au chapitre 24, à l'époque de Joachim, donc le fils de Josias qui va régner particulièrement longtemps, Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, partit en campagne. Joachim lui fut asservi pendant 3 ans, mais il se révolta de nouveau contre lui. Alors l'Éternel envoya contre Joachim les troupes des Babyloniens, les troupes des Syriens, les troupes des Moabites, les troupes des Ammonites. L'Éternel les envoya contre Juda pour le détruire conformément à la parole qu'il avait prononcée par l'intermédiaire de ses serviteurs les prophètes. Tout cela arriva uniquement sur l'ordre de l'Éternel. Il voulait éloigner Juda à cause de lui, à cause de tous les péchés commis par Manassé et à cause du sang innocent que Manassé avait versé et dont il avait rempli Jérusalem. L'Éternel ne voulut pas pardonner. On voit donc qu'il y avait ancré, c'était vraiment profond dans le peuple. Ce que Manassé avait accompli avait eu malheureusement une influence très durable, que Josias avait essayé de contrevenir, mais de façon finalement imposée. Ce qui est très intéressant, c'est que dans le livre des Chroniques, vous chercherez le verset, je crois que c'est au chapitre 34, à la fin du chapitre 34, il est dit que Josias obligea les gens de Jérusalem à suivre l'Éternel et à entrer dans l'Alliance. Donc ça, c'est un point intéressant. Et donc, j'aimerais tirer pour conclure 3 leçons. La première leçon, elle me semble très importante et en particulier à la lueur de ce qu'on peut appeler la geste deutéronomique. Vous vous rappelez que quand nous avons fait l'introduction du livre des rois, nous avons vu qu'il y avait ce qu'on appelle l'histoire deutéronomique, Josué, Juge, Samuel et rois, qui forment un seul grand ensemble qui découle du Deutéronome. Et c'est très intéressant de voir qu'à la fin de cette geste deutéronomique, on retrouve le livre de la loi et il est remis en exergue. Et donc ça renvoie à ce livre de la loi de Deutéronome. Mais vous aurez remarqué que la redécouverte du livre de la loi n'a pas du tout produit le sursaut attendu. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas la loi en elle-même qui peut générer le bien. La loi est faible, elle est incapable. Et c'est ce que nous dit l'Épître aux Galates, c'est ce que nous dit l'Épître aux Romains. Nous étions prisonniers sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi était le guide chargé de nous conduire à Christ, et en particulier en démontrant l'inutilité des efforts humains. Puisque l'alliance sous laquelle Josias veut mettre les gens de Jérusalem et de Juda, et puis ceux d'Israël qui restaient lors de son règne, cette alliance-là, finalement, ce n'est que la réitération de l'impossibilité qu'on avait vue auparavant. La première alliance qui avait été conclu sous Moïse, juste après le veau d'or. Et bien là, de nouveau alliance et repatatras, tout de suite après la mort de Josias, et bien de nouveau retour à l'idolâtrie. Et ce qui est très frappant, c'est que quand on relit, ces éléments-là, on voit le parallélisme qu'on peut faire. Et aussi, ce qui est très frappant, c'est de voir à quelle vitesse les choses se sont remises en place. Relisez par exemple le chapitre 8 du prophète Ézéchiel. Ézéchiel qui est en esprit envoyé pour voir les horreurs dans le temple de l'Éternel. On a l'impression que c'est comme si Josias n'avait rien fait. Parce qu'on ne peut pas, et c'est ma leçon numéro 2, imposer le changement intérieur. L'action même très vigoureuse et volontaire de Josias n'a pas eu d'effet profond, n'a pas eu d'effet durable. On ne peut pas imposer le changement intérieur. Alors c'est sûr que Josias, dans sa responsabilité de roi, a eu raison d'agir ainsi. Il a eu raison d'essayer de conduire le peuple sur le bon chemin. Mais on ne peut pas lui imputer l'échec. L'échec, il est intrinsèque au fait que, si important qu'il soit, si roi qu'il soit, si pieux qu'il soit, il ne pouvait pas agir dans le cœur. Il pouvait juste extérieurement casser les sanctuaires, mettre de la poudre d'os, etc. C'est juste ce qu'il pouvait faire. Il n'avait pas d'autre capacité, le pauvre Josias. Et c'est intéressant aussi pour nous, si vous voulez, parce que parfois on peut se dire, ah là là, comment se fait-il que mes enfants ne suivent pas le Seigneur? Comment se fait-il que j'ai essayé de faire ça, puis ça n'a pas marché, etc. C'est pas nous qui avons la possibilité de changer les cœurs, chers amis. Les cœurs de nos enfants, les cœurs de dans notre travail, que ce soit ou dans nos différentes sphères de responsabilité. Notre responsabilité, c'est d'agir fidèlement, ce que Josias fit, mais nous n'avons pas à nous mettre le martel en tête parce qu'on ne peut pas changer en profondeur. Seul l'Esprit de Dieu peut le faire. Et c'est ma troisième leçon, même le meilleur des rois ne peut sauver. Alors Josias, c'est le meilleur d'entre tous. Et le texte est dithyrambique sur Josias. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Alors, il y en avait plein, il fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, et là, il fit ce qui est droit. On commence par ça. Il marcha entièrement sur la voie de son ancêtre David. L'adverbe est rarissime. Il ne s'écarta ni à droite ni à gauche. Alors ça, c'est un rappel direct de Deutéronome chapitre 5, verset 24, où il était demandé à l'Israélite de ne s'éloigner du décalogue ni à droite ni à gauche, et du chapitre 17, verset 20, si mes souvenirs sont bons, du même Deutéronome, où il était demandé au roi de ne pas s'écarter du livre de la loi qu'il devait recopier à la main, ni à droite ni à gauche. Ticket toutes les boxes, l'ami Josias. Ton cœur a été touché, tu t'es humilié, tu as pleuré devant moi. On voit aussi quelqu'un qui n'est pas simplement là dans un respect formel de la loi, mais qui est touché intérieurement. Et puis, il s'engagea à suivre l'Éternel, ses commandements, ses instructions, ses prescriptions, de tout son cœur et de toute son âme. Et on retrouve ça aussi, aucun roi qui revienne à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Ben, c'est le schéma Israël, c'est Deutéronome 6. Donc, c'était vraiment l'exemple même de celui qui mettait la loi en pratique. Et sans parler du fait qu'aucune Pâque pareille à celle-ci n'a été célébrée, qu'après lui n'a pas paru de semblable. Donc, si vous voulez, c'était le meilleur des rois possibles, puisqu'il est même mis au-dessus de Salomon. Là aussi, c'est intéressant, parce qu'on boucle la boucle du livre des rois. Ce faisant, vous vous rappelez, le fait qu'il n'y a pas eu, que même Salomon, il y avait des idoles qui avaient été laissées. Donc, ça veut dire que Ézéchias, si belle ait été sa réforme quelques 90 ans après, il avait laissé quand même quelques idoles du temps de Salomon, ici ou là. Ça n'avait pas été aussi complet que Josias. Donc, ça a été le meilleur. Et le meilleur a été incapable de faire revenir le cœur du peuple. Et donc, quelle est la solution? C'est ce par quoi nous avons commencé notre étude du livre des Proverbes, quand j'ai fait l'introduction. Jésus, c'est le seul espoir. Et on termine. Le livre des rois, pardon. Le livre des rois. Jésus, c'est le seul espoir. Et Jésus, c'est le sauveur attendu. Alors, Josias aussi, on aurait pu se dire, mais c'est le Messie attendu dans un sens, puisque 350 ans avant, vous rappelez l'histoire qu'on avait vue il y a quelques mois du vieux prophète, du jeune prophète qui était venu, là, puis du lion qui avait mangé, etc. Ça vous dit quelque chose, tout ça? Eh bien, on retrouve cette histoire ici, puisque il avait été annoncé des plusieurs siècles auparavant, un fils naîtra dans la famille de David, son nom sera Josias. Ah, oui, d'accord, mais ça ne servit à rien. C'est pas parce que son nom avait été annoncé 350 ans avant que ça a pu permettre que Josias ait un effet durable. Par contre, Ésaïe, chapitre 7, verset 14, « La Vierge sera enceinte et elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel. » Et là, pas 350 ans, mais 700 ans avant, il y a eu cette annonce qui a été faite et un jour, le vrai sauveur attendu est arrivé. Et Jésus, c'est vraiment le seul espoir. Il y a ce constat que Hulda transmet de la part de l'Éternel. Ma colère s'est enflammée contre cet endroit, elle ne s'éteindra pas. Mais nous avons, par grâce, ce magnifique verset de l'Épître aux Romains. Beaucoup plus tôt donc, ayant été maintenant justifiés par son sang, serons-nous sauvés de la colère par lui. Alors je trouve intéressant que, au-delà de l'exemple que nous donne Josias, comme fidèle à la parole de Dieu, comme volontaire dans l'éradication du péché, etc., je passe sur le fait que sa fin peut-être démontre une hubris qui a été née parce que quand on est très fidèle, peut-être parfois on peut se glorifier de sa fidélité. Hein. Voilà, c'est peut-être sans doute une leçon aussi indirecte. Mais quelle qu'ait pu être l'action magnifique de Josias, ça n'a pas eu de conséquences durables. En revanche, nous connaissons aujourd'hui celui qui est venu et qui est le roi des rois et qui est ce roi qui veut régner dans notre cœur. Parce que lui a pris la colère de Dieu sur lui et maintenant il agit par son esprit au quotidien en chacun de nous. Je vous propose de terminer en priant. Une sombre histoire, notre Dieu, que nous avons parcourue tout au cours de ces mois dans ce livre des rois, et merci parce que tu vois, indirectement ou directement, cela nous dirige les yeux vers Jésus-Christ, ton Fils. Merci de nous l'avoir envoyé. Merci parce que c'est lui qui peut ôter les idoles de notre cœur, et notre prière à la fin de ces moments, c'est que par ton esprit, par ta parole agissant, eh bien, tu travailles en nous pour produire ce que tu veux voir produit, cette fidélité pour te suivre et cet attachement à toi. Oui, que nous puissions vraiment revenir à toi de tout notre cœur. Nous te remettons ta parole pour qu'elle agisse dans notre cœur et nous te bénissons au nom de Jésus. Amen.
Je conclue en chantant la troisième hymne dans les hymnes.